Bonjour. Le 7 juillet 2026, aux alentours de 13h30, Marine Le Pen a été déclarée pour la seconde fois coupable de détournement de fonds publics et de complicité de détournement de fonds publics dans le procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National. Ce même 7 juillet, aux 20h de TF1, Marine Le Pen a déclaré sa candidature à l'élection de 2027. En quelques heures, la vie politique française a été bouleversée par ces deux informations qui auront dans tous les cas de lourdes conséquences sur l'élection présidentielle à venir. Comment ces deux événements ont été racontés et montrés par les médias? Comment interpréter la décision de la Cour d'appel qui a rendu son éligibilité à Marine Le Pen? Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé ce 7 juillet, deux invités aujourd'hui, Aisselle Delaine, vous êtes politiste et maîtresse de conférences à l'Université de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Et Youmni Kezouf, vous êtes journaliste à Mediapart en charge de la couverture des différentes extrêmes droites.
Bonjour.
Et on va commencer par la façon dont les chaînes info en direct ont relayé et annoncé le jugement de la Cour d'appel.
Il est 13h50. La vie politique de Marine Le Pen se vit dans cette
et elle peut
se joue dans cette minute-là.
Où on se parle.
Voilà, Marine Le Pen reconnue coupable en appel. Tout cela ne nous dit strictement rien. Pour l'instant, sur la possibilité de se présenter à la présidentielle, on est en train d'écouter ce qui va se dire sur l'éligibilité ou pas de Marine Le Pen.
C'est une première annonce très très forte de cette journée qui est historique.
Hein. Oui, on peut dire une annonce historique, hein, puisque vous savez bien que c'est la première fois que la justice décide de l'avenir d'un candidat, enfin d'un futur, en tout cas d'une élection présidentielle.
La Cour confirme le jugement et l'amende de 100 000 euros.
Trois ans, dont 2 ans avec sursis.
Donc un an ferme
et donc un an aménageable.
Inéligible 45 mois, dont 30 mois avec sursis. 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis. Chacun est en train de calculer.
30 mois, ça fait 15 mois.
Elle les a fait. Ça signifie que Marine Le Pen est condamnée à 15 mois d'inéligibilité. C'est en deçà des 2 ans qui lui permettent d'être condamnée, d'être candidate à l'élection présidentielle. Mais elle doit effectuer 1 an de prison sous bracelet électronique.
Alors, Youmni, vous étiez pour le coup à l'intérieur de ce vieux palais de justice parisien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé?
Oui, alors ça s'est passé de manière très rapide en fait, c'est-à-dire que très rapide et très lente, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde, énormément de journalistes pour couvrir des centaines de journalistes, que ce soit des reporters d'images, photographes, journalistes écrivants.
Des journalistes français ou du
monde? Énormément de presse étrangère aussi, alors on entendait parler à peu près toutes les langues dans les couloirs du palais de justice, puisqu'on y a passé du temps, entre 7h30 et 13h30, à attendre que les portes s'ouvrent pour pouvoir entrer dans la salle. Ensuite, ça s'est passé très rapidement, c'est-à-dire que comment ça se passe un délibéré comme ça, le président du tribunal motive et explique pourquoi cette décision a été prise avant d'arriver aux peines. En première instance, la juge Bénédicte de Pertuis avait longuement détaillé, fait beaucoup de pédagogie sur pourquoi elle allait condamner à telle et telle peine, qu'est-ce qui justifiait ces peines. Ça avait duré 2 heures, 2 heures et demie. Dans les couloirs du palais de justice, en amont, on nous disait oui, minimum 2 heures, maximum 4 pour qu'on puisse s'organiser. Et en fait, au bout de 19 minutes, la présidente de la Cour d'appel, Michèle Agy, a annoncé la peine de Marine Le Pen.
Donc elle a motivé sa décision pendant 19 minutes à peu près.
Pendant une quinzaine de minutes, elle a fait un chapeau introductif d'une quinzaine de minutes où elle a réexpliqué que les faits étaient graves, qu'on parlait de détournement de fonds publics, que c'était une atteinte à la probité extrêmement importante, au préjudice de l'équité entre les partis politiques, que ça avait apporté un avantage comparatif au Front National par rapport aux autres partis qui, eux, ne détournaient pas d'argent, etc., etc. Donc elle a vraiment insisté sur la gravité des faits pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, elle en est venue aux peines. Monsieur Gollnisch, Monsieur Alliot, Madame Le Pen, explication de la peine, et puis c'était terminé.
Comment ça a réagi dans la salle?
Alors moi, j'étais dans la salle de retransmission, donc pas dans la grande salle du palais de justice où Marine Le Pen était présente.
Et même dans la salle de retransmission.
Mais même dans la salle de retransmission, c'était... Alors c'est des spécialistes, les journalistes qui étaient là sont pour la plupart des spécialistes de la justice, pour la plupart des gens qui ont suivi le dossier, qui donc, contrairement aux gens qui étaient en plateau au même moment sur les différentes chaînes info, n'avaient pas besoin de faire beaucoup de calculs pour comprendre ce que ça impliquait, etc. Mais c'était quand même la surprise parce qu'en fait, entre la motivation pendant la quinzaine de minutes de Michèle Agy, la présidente de la Cour d'appel, qui a beaucoup insisté sur la gravité des faits, et la peine qui, in fine, a été infligée à Marine Le Pen, il y avait un petit peu un hiatus, parce qu'on a eu 15 minutes de « c'est très très grave, c'est très très grave, c'est très très grave », et à la fin, une condamnation qui, alors certes, est une condamnation, il faut le rappeler, on va avoir l'occasion d'insister dessus, mais qui donc lui permet notamment, ce qu'on dit, les extraits sur les différents plateaux, lui permet de présenter sa candidature à l'élection présidentielle, dans des circonstances un peu particulières, on va y revenir, mais quand même.
Estelle Delaine, vous n'étiez pas au tribunal de justice. Vous étiez où à ce moment-là?
Moi, j'étais chez moi, très tranquillement.
Et vous avez regardé ça, vous êtes tenue au courant comment?
Alors moi, je ne m'informe pas forcément sur les petits rebondissements en fait, des affaires judiciaires, parce que je pense aussi que cette affaire-ci, elle dit quelque chose d'un peu plus général, aussi sur le champ politique, comment il réagit, comment on connaît ou pas en fait, les institutions judiciaires, comment on se saisit aussi des arguments des magistrats et des magistrates en dehors, en réalité, et comment aussi peut pénétrer le discours de la... l'ancienne présidente du Front National, Rassemblement National, dans des cercles qui sont différents et qui lui étaient jusqu'à présent plutôt opposés, en fait, ou plus largement, qui mettaient des limites plus largement au préalable. Enfin, je pense aux médias, ce dont on va parler un peu aujourd'hui, je pense aussi au champ politique, aussi un peu plus légitime, dominant, dans lequel des discours qui sont structurés, qui sont façonnés par le Rassemblement national depuis longtemps, peuvent en fait complètement s'immiscer. Et là, j'ai l'impression que par ailleurs, ce qui a pesé sur cette décision, si c'est aussi cette question de la partialité de la justice, finalement, qui a complètement été introduite par la Marine Le Pen, qui a été donc condamnée en première et en instance et en appel.
Et en appel. Et donc, on va regarder justement, parce que alors, les chaînes d'info ont fait leur après-midi là-dessus, on était devant, et on va regarder la façon dont ils ont commenté, dans les premières heures en tout cas, sur les différentes chaînes, le côté malin, selon eux, de cette décision de justice.
Le jugement, on s'attendait que ça dure plusieurs heures, 40 minutes, implacable. La présidente qui dit, voilà, c'était très grave, vous êtes coupable, tout le monde a trouvé ça malin, renvoie la balle au Rassemblement national.
Mais il est très intéressant cet arrêt de la Cour d'appel, finalement, parce que de deux choses l'une, ou les deux en même temps d'ailleurs. Un, ils ont trouvé que le jugement de première instance était sévère. Et deux, et c'est là où ils sont très malins quand même, c'est qu'ils ont dit, mais c'est pas nous qui allons décider. C'est elle qui va décider si elle va à la candidature de la présidentielle. Et en plus, elle avait dit qu'elle ne voulait pas de faire campagne avec Bracelet.
Vous savez ce que je vous propose?
Elle va faire campagne avec Bracelet.
Là où c'est encore plus, si j'ose dire, malin, ou habile, ou subtil, je ne sais pas comment il faut dire, ou un peu politique, c'est que, comme vous le dites, à la fois, elle peut se présenter, donc on ne peut pas accuser les juges d'avoir voulu entraver l'exercice démocratique de suffrage universel présidentiel, pardon. Et d'un autre côté, comme elle a dit qu'elle ne voulait pas faire campagne sous bracelet électronique, on lui dit, vous pourrez pas nous accuser de vous empêcher de faire campagne, et ça sera votre décision.
Je trouve que les magistrats ont été très malins, très habiles. Marine Le Pen disait encore à Liévin que devant ses militants, devant ses partisans, qu'ils allaient être privés du choix de leur candidat, puisque ce seraient les juges qui choisiraient. Mais les juges sont très malins. Ils n'ont pas décidé. C'est à Marine Le Pen de prendre sa décision d'être ou non candidate. Elle peut l'être. C'est franchement un piège, cette histoire de bracelet électronique.
Alors, est-ce que malin, qui s'est répandu comme ça de chaîne en chaîne, dans les heures suivant le jugement, c'est le bon adjectif pour qualifier ce fameux jugement?
En tout cas, c'est l'adjectif qu'on a le plus entendu, comme on le voit, et effectivement, ça a été martelé. En fait, c'est particulier, puisque ce que tous ces gens considèrent comme malin, de la part de la justice, en l'occurrence de la Cour d'appel, c'est qu'en fait, la Cour d'appel a décidé de ne pas décider. C'est-à-dire que l'arrêt de la Cour d'appel, qui condamne Marine Le Pen à de l'inéligibilité, mais à 15 mois ferme d'inéligibilité,
effectué.
Le décompte commence à la première instance, 31 mars 2025, ouais. Donc c'est déjà terminé. C'est décider de ne pas décider si l'inéligibilité, qui est la peine dans les affaires de probité qui concernent la vie politique, qui est la peine principale, en fait, presque. On le voit à Mediapart, on chronique, mes collègues, tous les jours des affaires de probité dans le monde politique. On voit bien que ce n'est pas les amendes qui font peur aux politiques qui sont des délinquants. Ce n'est pas les peines de prison qui sont souvent avec sursis, qui sont souvent aménagées et aménageables, qui font peur aux politiques. Ce qui fait peur aux politiques, ce contre quoi ils s'indignent, c'est l'incapacité de se présenter ou la perte du mandat. C'est ça l'effet, et c'est la seule peine qui peut avoir un effet un peu de peur sur les politiques. Et donc là, on voit que la Cour d'appel a décidé que, et elle l'a considéré dans son arrêt, que les 15 mois avaient suffi à réparer le préjudice démocratique et que donc ça suffisait. Ce que certains qualifient de malin, on peut aussi considérer que c'est un renoncement de la part de la justice d'exercer jusqu'au bout ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire il y a 5 ans d'inéligibilité qui avaient été infligés en première instance. Il y a une question, c'est est-ce que Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics, doit pouvoir être candidate aux plus hautes fonctions du pays. Visiblement, la Cour d'appel a considéré que oui.
Estelle Delaine, malin, c'est aussi l'adjectif qui vous est venu ou pas ?
Moins spécialement, mais je trouve que ça devient un cas d'école presque pour expliquer comment certains journalistes à la télévision comprennent aussi ce qui se joue dans les instances judiciaires et dans les instances politiques. C'est-à-dire que souvent, c'est psychologisé. Donc on revient sur, on psychologise un petit peu, la réaction que peuvent avoir en fait les personnes qui participent aux décisions de justice, ce que peut penser, comment on peut vivre intimement en fait le fait d'être jugé, d'être condamné. Donc ça c'est un registre qui est assez puissant et qui est assez souvent utilisé par les journalistes de réindividualiser en fait l'analyse. Qui n'en est pas trop une, en fait, hein, parce que derrière ce qui serait malin, en fait, on ne dit pas ce que ça ferait à la justice, on ne dit pas ce que ça fait au champ politique, on ne dit pas ce que ça va faire à une campagne, potentiellement. Donc on reste à un échelon qui est quand même très. Qui est assez miniature. On trouve que finalement, dans un petit espace, on ne s'y attendait pas. Et entre éditorialistes, on trouve ça finalement amusant, en fait. C'est presque le registre qui est utilisé, finalement.
Oui, et puis ça dit beaucoup du cadrage, c'est-à-dire que dans toutes ces heures de plateau, tout ce dont on a parlé, le « on » est excluant, je n'y étais pas, mais enfin, tout ce dont ils ont parlé, c'est effectivement de « c'est malin, ça lui permet d'être candidate à la présidentielle ». À aucun moment, ou presque, très peu, on est revenu sur la dinguerie qui représente le fait d'avoir une candidate à l'élection présidentielle condamné à deux reprises, en première instance et en appel, pour avoir détourné et organisé un système de détournement de fonds publics, donc des fonds qui proviennent des citoyens, 2,8 millions d'euros au profit de son parti. On parle d'une candidate à la présidentielle qui est condamnée à de la prison ferme, aménageable sous bracelet électronique, mais à de la prison ferme. Et ça a été peu présent, beaucoup moins présent que ces petits calculs sur... C'est malin, 15 mois, c'est pas 18, c'est pas 12, donc ça permet qu'elle se présente, etc.
Et puis, si je peux me permettre, depuis même en fait, le traitement médiatique dès la première instance, et même quand on ne connaissait pas encore vraiment la décision de justice, il y avait cette idée que tout de suite c'était un procès qui allait déterminer les candidats et candidates à la présidentielle. En fait. Donc ça a toujours été le cadrage de regarder qui est-ce qui va être candidat, dans quelle mesure, et on le voit hein, dans les premiers extraits que vous nous avez montrés, en fait, il balbutie même. Alors le condamné, on le rajoute, et puis en fait, c'est aussi, elle sera candidate, elle est candidate. En fait, je pense que c'était ce qui était prévu, prévisible sur leur plateau, on saupoudre d'un petit peu de d'étonnement avec un jugement qui n'était pas vraiment attendu par elle et eux, mais qui constitue du coup le commentaire.
J'aimerais d'ailleurs qu'on regarde un montage donc, qui a été réalisé après la première condamnation de Marine Le Pen, donc en avril, 31 mars 2025. À ce moment-là, c'est les cadres du RN qui sont sur les plateaux télé pour dire ceci.
Le Conseil constitutionnel, qui est le gardien du droit, le gardien de la Constitution, dit une chose très simple, il faut qu'il y ait un principe de proportionnalité. Attention à ce qu'une telle décision ne vienne pas contrevenir à la liberté des électeurs. Quand vous contrevenez à la liberté de 37%, de 34 à 37% du corps électoral, c'est un sondage IFOP pour le JDD de dimanche dernier, alors cette décision est disproportionnée.
Mais qui est souverain dans notre pays, en fait ? C'est le peuple ? Ou c'est les magistrats, ces magistrats de première instance ? C'est quand même une vraie question. Il me semble que c'est le peuple. Et par conséquent, vouloir forcer, tordre le bras des électeurs en disant « vous risquez de voter pour elle, alors je vais vous dire quoi ? Moi, je considère que je m'autorise le pouvoir de vous interdire de le faire. » Mais c'est une honte absolue.
cette exécution provisoire motivée par des faits politiques, elle crée une injustice majeure, mais surtout une atteinte à l'état de droit, c'est-à-dire que le peuple souverain ne peut pas choisir qui il a envie de choisir à l'élection présidentielle.
C'est un enjeu démocratique aujourd'hui qui se pose, c'est que la principale opposante dans une démocratie telle que la France, qui est pourtant un modèle normalement à l'international, va être empêchée à ce jour de candidater. Et il y a au final des millions de Français qui sont bâillonnés, qui ne pourront pas exprimer leur choix, un choix libre, en choisissant Marine Le Pen.
Yumi Kezou, vous avez sous les yeux un extrait, plusieurs extraits de l'arrêt de la Cour d'appel pour motiver donc sa décision, où on retrouve effectivement, est-ce que vous pouvez nous lire l'extrait, où on retrouve certains, certains des éléments de langage diffusés par le RN depuis un an.
Oui, c'est très particulier. C'est-à-dire, en fait, sur cette question de l'inéligibilité, je pense qu'il faut revenir à l'arrêt de la première instance et pour permettre la comparaison, en fait. En première instance, Bénédicte de Pertuis, la présidente, avait justifié cette peine d'inéligibilité contre laquelle ils s'indignent tous et toutes, en expliquant justement que permettre à Marine Le Pen de se présenter au suffrage, la proposition de la défense, donc, de laisser le peuple souverain décider, ce qu'ils proposent tous, revient à demander un privilège ou une immunité pour les candidats. Et donc, elle expliquait, il n'y a pas de raison, quand on détourne de l'argent, quand on est condamné, que parce qu'on est candidat, on soit moins condamné, moins pénalisé que les autres. Ça devrait même être le contraire, ce qu'elle expliquait. Il y a une exigence de probité qui est plus importante quand, de fait, on prétend aux plus hautes fonctions, en l'occurrence, diriger le pays.
– Et c'est à peu près l'inverse ?–
Complètement l'inverse de ce qui a été dit en cour d'appel, où là, la présidente Michèle Agy a expliqué qu'elle considérait donc que les 15 mois d'inéligibilité déjà purgés, entre guillemets, par Marine Le Pen, suffisaient à réparer le préjudice. 15 mois d'inéligibilité dont il faut rappeler qu'ils n'ont eu absolument aucune incidence. Elle a gardé son mandat de députée, elle est toujours présidente de groupe. La seule incidence qu'il y a eu, c'est qu'elle a dû lâcher son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Donc on considère que 2,8 millions...
Qu'elle va récupérer, là, du coup.
Qu'elle va récupérer, du coup. Donc on considère donc que 2,8 millions d'euros détournés, bon, la perte d'un mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, ça suffit, ça règle tout. Et pour justifier cela, elle a expliqué qu'il fallait respecter la liberté de choix de l'électeur, condition d'expression de suffrage démocratique. Donc vraiment, un virage complet entre la motivation de la première instance et la motivation de l'appel.
Et ce pressing politique, médiatique, a pu avoir, selon vous, un impact sur la manière de juger de la Cour d'appel ? Parce que c'est toujours compliqué à dire, ça, quand même.
– Alors, c'est impossible de… Voilà, je n'étais pas dans la collégialité du jugement, etc. Mais enfin, il est évident que depuis un an et demi, le Rassemblement national et ses alliés et les militants partout…
– Et certains médias.
– Et certains médias, évidemment, certains relais médiatiques, exercent un pressing qui confine au harcèlement et qui parfois se caractérise par du harcèlement.
Oui, à l'égard de la juge d'ailleurs de première instance.
De la juge de première instance qui a dû être placée sous protection judiciaire, protection policière, pardon, menacée de mort après. Mais on a eu des déclarations absolument folles et scandaleuses de cadres du Rassemblement national, qu'on parlait de mollah du droit, qu'on parlait de dictature des juges rouges dont il allait falloir s'occuper quand on serait au pouvoir, etc. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé à chaque condamnation de membres de l'extrême droite, qu'elles soient radicales, groupusculaires ou médiatiques ou politiques ces dernières années. Il y a encore quelques semaines, patron de frontières, Eric Tegner, a été condamné par un magistrat de Bobigny. Il a lancé sur les réseaux sociaux une cabale contre ce magistrat qui a été victime de centaines de milliers de menaces de mort, d'insultes racistes, etc. Et évidemment que ça crée un climat. Moi, j'ai parlé à des magistrats récemment français qui m'expliquaient que bien sûr que ça infusait, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils avaient peur que à chaque fois qu'ils avaient une décision à prendre contre des gens ou pour des gens, qu'ils avaient à juger des cas qui impliquaient des membres de l'extrême droite, ils pensaient à tout ça, ils voyaient leurs collègues deux jours avant, six mois plus tôt, qui avaient été menacés de mort, qui devaient se protéger leurs enfants, qui ne pouvaient plus sortir avec leurs enfants dans la rue. Donc bien sûr que ça infuse. Quant à savoir à quel point, à quel niveau, qu'est-ce qui fait que la décision bascule, ça personne ne le sait. Mais évidemment que ça crée un climat absolument délétère et que c'était l'objectif de ce pilonnage de la justice et de cette pression pendant tous les mois qui ont suivi le jugement de première instance.
Parce qu'il arrive effectivement qu'en appel, des peines soient amoindries. C'est même le principe, c'est ce qui permet, voilà, c'est pour ça que l'appel existe. Pour confirmer ou justement ajuster, nuancer la décision prise en première instance. Est-ce que là, qu'est-ce qui nous laisse penser que cette décision, elle est... Parce que c'est toujours un peu dangereux de contester les décisions judiciaires. Là, en l'occurrence, on a le droit de penser aussi que la justice a estimé que peut-être la première instance était un peu sévère. Est-ce que ça, on peut le penser ?
Je pense, oui, et je pense que c'est à la fois le droit de Marine Le Pen justiciable de partir en appel et d'avoir une décision qui est différente de la première. Je pense que c'est ça qui fait un état de droit, en fait, aussi de multiplier des décisions de justice. Là, il se trouve qu'on a quand même deux décisions de justice qui la condamnent, mais avec pas avec des peines qui ne sont pas exactement les mêmes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la première instance, enfin, toute la cabale un peu médiatique et politique en fait, autour, et la pression qui a été exercée quand même sur les décisions de justice et sur les conditions de travail des magistrats et des magistrates, avec un thème un peu central le gouvernement des juges, la politisation en fait, des juges, qui voulait en fait dire que les magistrats auraient été de gauche. Donc on a un premier thème qui a été diffusé de manière. Et qui a été abandonné, on le voit bien, alors que. Finalement, la peine est différente en seconde instance. Donc, évidemment, les communicants politiques d'extrême droite ne sont plus sur le même registre exactement. Mais du coup, on a complètement oublié des plateaux. Et je pense que c'est là où on sent une certaine circulation quand même de la rhétorique du RN. C'est parce que la thématique de la politique, et je suis d'accord avec vous, avec raison, elle a été écartée en fait cette fois-ci du commentaire médiatique pour lui préférer. Alors que ça, on aurait pu rester sur un registre qui n'est pas la politisation des juges, parce que c'est une mauvaise analyse et je pense qu'il ne faut pas la perpétrer, mais qui aurait pu être. En effet, il y a quand même une intervention ou un lien, l'intervention, ce n'est pas un bon terme, mais en tout cas, une réflexion des magistrats et magistrates sur ce que ça fait dans la vie politique et justement ce que la peine d'inéligibilité, est-ce qu'elle est pensable dans certains contextes politiques, ce qui est une décision en fait assez politique finalement.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, la première fois, effectivement, on les accusait d'être trop à gauche, trop rouge. Et cette fois-ci, on entend quelque chose de l'ordre. Ils ont démissionné, ils n'ont pas vraiment jugé. Est-ce que c'était vraiment jugeable, de toute façon, cette affaire ?
Ah non, mais je ne commenterai pas plus que ça les décisions des juges, parce que je pense que dans un état de droit, il est quand même important qu'ils puissent se saisir des dossiers qu'ils ont et qu'ils puissent rendre justice comme ils le souhaitent. Mais vous remarquerez que la thématique du jugement politique, elle a disparu.
Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre quels effets peuvent avoir les décisions de justice. Ça invite à regarder. C'est-à-dire que les peines, parce que c'est l'inéligibilité qui concentre l'attention, et à raison, puisque c'est aussi, comme je l'ai dit plus tôt, c'est ça qui est central dans cette histoire. Des peines d'inéligibilité sont attribuées à des politiques toute l'année en France. Et c'est intéressant de regarder, justement, de comparer. Il n'y a pas longtemps, Thierry Mandon, ancien ministre socialiste, a été condamné pour avoir détourné 22 000 euros. Donc on est
de la cité. Des 2,8 millions d'euros.
De la cité du design de Saint-Étienne qu'il dirigeait. 22 000 euros, il était condamné à 4 ans d'inéligibilité ferme.
Ouais.
4 ans, 22 000 euros. Et donc c'est là où il y a quelque chose qui sur lesquels on doit se pencher, on doit réfléchir en tant que société, y compris pour les cas futurs. Là, la décision de la Cour d'appel dit, et c'est factuel, c'est que plus on est un élu important, plus on a des fonctions importantes, moins on doit avoir de peine d'inéligibilité. Ce qui est particulier quand même comme réflexion et qui, du coup, questionne, y compris pour toutes les affaires futures que la justice aura à trancher. On parle de Marine Le Pen, mais il y avait 11 autres personnes, 11 autres prévenus qui ont été condamnés tous et toutes le 7 juillet. Les deux seules personnes qui ont eu des peines d'inéligibilité fermes, pas assorties de sursis, fermes, ce sont les deux seules personnes qui ont 75 ans et plus et qui sont retirées de la vie politique. C'est Valérand Saint-Just et Bruno Gollnisch. Donc ils sont des vieux messieurs qui sont retirés de la vie politique.
Ils n'ont plus trop d'impact, effectivement, sur la vie politique.
Tous les autres qui sont actuellement élus, que ce soit Marine Le Pen, donc la peine est déjà purgée, que ce soit Louis Alliot, maire de Perpignan, qui a été condamné à de l'éligibilité avec sursis, que ce soit Julien Odoul, Timothée Houssin, qui étaient à l'époque collaborateurs parlementaires, qui sont maintenant députés
qui
sont des cadres du RN. Julien Odoul, il est porte-parole. C'est que du sursis. Et donc, on a vraiment cette mécanique de plus on est un élu important, plus on aspire à des fonctions importantes, moins on est condamné à de l'inéligibilité. Et ça, enfin, ça nécessite que, en tant que société, on se penche sur la question pour savoir pourquoi on a pris cette décision et quelles implications ça peut avoir et qu'est-ce que ça dit de l'efficacité ou non de cette peine.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a moins aussi commenté quelque chose qui me semble un peu central, qui est l'utilisation aussi des termes juridiques, mais qui sont déplacés aussi. Il me semble, en fait, en sciences sociales, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On attribue aussi les mots et leurs valeurs, leurs narratifs dans des contextes. Et on regarde aussi ce que font les institutions et ce qui permet aussi de comprendre des fois ce que veut dire aussi certains termes. Il me semble que là, par exemple, le terme « accusé » revient souvent. On accuse les juges, par exemple. Alors, c'est évidemment, on est dans un registre qui emprunte un peu au vocabulaire de la justice, mais qui est dans un autre registre. Évidemment, on va pas rendre des décisions de justice. Il y en a plusieurs comme ça. Enfin, on reprend beaucoup ce terme de juger les juges, en fait. Enfin, quelque chose qui est. Et il me semble que la décision de la Cour d'appel de Paris, en appel, elle fait quelque chose qui brouille un petit peu les pistes. Parce qu'on met sur le même plan une décision de justice pour détournement de fonds. Donc là, c'est une décision. Alors, on pourrait avoir un débat sur qui peut juger, en fait. Est-ce que c'est forcément des juges professionnels? Enfin, il pourrait y avoir un débat. Qui juge dans une société? C'est un beau débat, je pense. En termes de procès, hein, enfin, vraiment. Et puis, par contre, on pourrait aussi réfléchir sur. Qu'est-ce que c'est que le résultat des urnes? Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est un procès? Moi, il ne me semble pas, en fait. Le résultat des juges, il me semble qu'on peut élire, on pourrait élire quelqu'un qui est accusé. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Donc, il me semble que c'est autre chose, en fait. Le résultat d'un scrutin, on élit quelqu'un qui nous semble pouvoir gouverner une société. Ce qui est assez différent de considérer ce qu'on fait de quelqu'un qui a usé, abusé des biens publics, par exemple. Il me semble que c'est un registre assez différent, en fait, et qui, je me demande si ça ne va pas jeter un peu de confusion, en fait, aussi sur ce qu'on fait et ce à quoi sert une élection présidentielle.
C'est vrai que ça suscite, enfin, ça soulève énormément de débats qui peuvent être très profonds, même quasi philosophiques pour ce qu'on est en tant que société. Ce n'est pas exactement le parti qu'ont pris les chaînes d'infos quand Marine Le Pen est sortie du tribunal. On regarde comment ils ont choisi de meubler l'antenne à ce moment-là.
Alors, Marine Le Pen.
Merci,
voilà.
Marine Le Pen.
Toute la question est de savoir, évidemment, si elle va s'exprimer ou pas.
Ah, elle était un peu souriante. Difficile de faire de la morphopsychologie dans ce contexte-là.
Plutôt fermé, hein.
Vous êtes plutôt fermé, vous dites. Je trouve.
Non, visage neutre de Marine Le Pen, accompagnée de son conseil. Non, mais c'est mais important. Tout est important.
Elle sort avec un visage composé, hein, la présidente du Rassemblement National.
On voit sa voiture, d'ailleurs, son véhicule qui s'éloigne du palais de justice. Sois-y qu'on se demande ce qui se passe, évidemment, dans l'esprit, dans la tête de Marine Le Pen, qui est dans cette voiture, qui va rejoindre donc Jordan Bardella au siège du RN.
Là, on arrive effectivement au siège. Vous voyez déjà les policiers, l'arrivée de Marine Le Pen qui sort de sa voiture.
Marine Le Pen qui est en train de rentrer dans le nouveau siège du Rassemblement National. Pas de réaction, elle est rentrée très furtivement.
On va retourner du côté du siège du RN. C'est là que tout se passe, c'est là que tout se joue. Réunion critique, réunion de crise.
Ils sont tous retranchés derrière moi et notamment dans ce bureau du président du Rassemblement National au quatrième étage.
Matteo Cervino, vous êtes au QG de Marine Le Pen. Elle est sur place depuis un petit moment déjà.
Visiblement, la réunion de crise autour de Marine Le Pen, il y avait ses avocats, il y avait des barons du parti, c'est terminé. Est-ce que vous avez des informations, Valentin?
Terminé, Laurence, difficile à dire.
On attend le départ de Marine Le Pen dans les toutes prochaines minutes. On ne cesse de regarder la porte de ce nouveau siège du Rassemblement National.
Sa voiture, Marc, est allumée, moteur allumé, le chauffeur est en place. Tout porte à croire que Marine Le Pen va quitter les lieux dans les toutes prochaines minutes. Et vous le voyez en direct, cette porte qui s'ouvre, et c'est le président du Rassemblement National qui sort aux côtés de Marine Le Pen.
Elles disent quoi, ces images?
Elles disent déjà beaucoup de la façon de faire, de travailler des chaînes infos et de la difficulté de tenir une antenne pendant des heures quand on n'a absolument rien à raconter. Ce n'est qu'un énième exemple. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des caméras fixes sur la porte du siège du parti depuis que je couvre le parti. Alors, c'était un autre siège à l'époque, maintenant c'est celui-là. Mais donc, voilà, ça. Et par ailleurs, effectivement, il y a une dimension de psychologisant, d'essayer de comprendre si le visage est composé, neutre, impassible ou souriant. Mmh. C'est voilà, un panel et peu importe ce que ça veut dire, par ailleurs. Oui. Il y avait même, sur BFM TV, que je regardais pendant cette longue après-midi, il y avait une question de savoir qui allait monter dans quelle voiture, puisqu'il y avait des scénarios selon si Jordan Bardella montait dans la même voiture que Marine Le Pen, ça voulait dire qu'ils allaient ensemble à TF1 et que donc elle était candidate, alors que s'il montait dans des voitures différentes, ça voulait dire qu'elle y allait seule et que donc elle se retirait. Enfin, bon. Donc on en était à regarder qui rentre dans quelle voiture et est-ce que voilà, est-ce qu'ils vont au même endroit bon, c'était un peu long.
C'était effectivement un peu long. Qu'est-ce que ça vous inspire au-delà du fait qu'on puisse effectivement invoquer un petit peu de cynisme à l'égard de la façon dont les chaînes d'info remplissent leurs heures d'antenne?
C'est vrai qu'on pourrait faire un sujet sur les conditions de travail, en effet, en fait, des journalistes. Est-ce que tenir sa caméra pendant des heures sous la canicule, c'est...
C'est pas eux qui tiennent la caméra, généralement.
Des journalistes et des personnes qui travaillent avec EEL. Et puis, en fait, qu'est-ce qui constitue un fait politique? Qu'est-ce que ça dit de voir, en fait, deux personnes sortir en même temps, dans le même ordre? Est-ce que ça a été si finement, en fait, travailler de la part des dirigeants dirigeantes du parti? Et si ça a été effectivement, alors je sais pas, hein, peut-être que la communication du RN passe des heures à savoir qui va sortir en premier, est-ce que c'est ça vraiment qui est intéressant en fait dans une vie démocratique, de savoir qui, enfin en tout cas, et cette image là qu'est-ce qu'elle dit? Donc on a vu des gens en costume cravate sortir ou en jupe tailleur sortir d'un immeuble. Bon, je ne sais pas ce que j'ai appris spécialement sur...
Alors que ces heures d'antenne, qui sont importantes et qui, en plus, ont probablement attiré des gens devant leur télévision, etc., ces heures d'antenne auraient, par exemple, tout à fait pu être consacrées à inviter et faire parler des gens qui connaissent le fonctionnement du Parlement européen et de son règlement pour réexpliquer pourquoi c'est grave d'avoir détourné 2,8 millions d'euros au profit de ces assistants parlementaires qui travaillent en fait pour le parti, auraient pu être consacrées à expliquer pourquoi c'est un problème dans une société de ne pas trouver choquant qu'une candidate ou qu'un candidat à la présidentielle puisse être condamné deux fois de la prison ferme ou qu'un ministre puisse être mis en examen, en procès, etc.
Enfin, ça, ils l'ont fait, mais un peu plus tard, voilà.
On aurait pu consacrer beaucoup plus de temps à expliquer la décision, expliquer les faits, expliquer l'affaire, expliquer pourquoi c'est grave, expliquer les implications que ça peut avoir. Voilà,
oui,
c'est des
ça
choix.
Fait pas, ça fait pas des belles
tout
images.
Tout à fait, mais c'est des choix éditoriaux qui sont importants et qui font du mal à la compréhension globale de cette histoire en particulier. Mais c'est des débats qu'on a eus aussi au moment du procès Sarkozy.
Qui a été filmé de la même façon dans sa voiture.
Exactement, et de plein d'autres moments. Voilà, c'est des débats récurrents, mais voilà, ça a des conséquences sur la façon dont les gens comprennent ce dont on parle et dont ils appréhendent in fine, ou ne comprennent pas, et la façon dont ils appréhendent la gravité ou non des choses, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et donc, après avoir quitté le QG du Rassemblement, enfin le siège du Rassemblement National, elle est montée dans une voiture noire. Je ne sais pas où elle a été ensuite, mais le soir, elle était aux 20h de TF1. Elle était reçue par Gilles Boulot et qui lui a posé une question sur son pourvoi en cassation. On regarde.
Encore vous poser une question d'ordre juridique. Si la Cour de cassation ne va pas dans votre sens, sachant qu'en première et en seconde instance, les juges n'ont pas été dans votre sens, donc ce n'est pas de la politique ni de la justice fiction, qu'est-ce qui se passe?
Mais nous verrons.
Si vous êtes reconnu définitivement coupable,
Monsieur Boulot,
qu'est-ce qui se passe?
Monsieur Boulot, nous verrons.
Ah non, vous ne pouvez pas dire « nous verrons
si, ». Si,
la septième puissance mondiale peut-elle être gouvernée par une...
Si,
présidée
si.
Par une femme qui
si,
aurait
si, nous verrons.
Cette épée
et
de Damoclès?
Les Français en seront juges, Monsieur Boulot. Nous verrons, et les Français en seront juges. C'est drôle, tout de même, de considérer les Français comme incapables de prendre une décision. Les Français seront juges, parce que, très bonne nouvelle ce soir, précisément, ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas le cas.
Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet extrait, et notamment deux réponses qu'elle donne. La première, c'est « nous verrons, nous le verrons ». À quel niveau, enfin, est-ce que ça témoigne pas quand même d'une certaine forme de kamikazerie ou d'amateurisme de la part de quelqu'un qui effectivement a quand même des chances non négligeables d'accéder au pouvoir présidentiel, de dire en gros, on verra bien.
Oui, c'est en fait c'est
sur cette histoire de cassation d'ailleurs. Oui. Si on peut résumer un tout petit peu pour celles et ceux, enfin, qu'est-ce que ça lui permet exactement?
Le fait de se pourvoir en cassation, ça lui permet de faire en sorte que cette décision de la cour d'appel, cette condamnation, ne prend pas effet.
Soit suspendue.
Elle est suspendue jusqu'à la décision de la cour de cassation. La cour de cassation, elle va juger en droit, elle ne va pas juger sur le fond de l'affaire, elle va dire si dans cette histoire le droit a été correctement respecté, et elle va se prononcer, elle va accepter son pourvoi, auquel cas il y aura un autre procès en appel, ou elle va rejeter ce pourvoi, auquel cas sa condamnation qui vient d'être évoquée prendra effet à partir de ce moment-là. Donc ce que ça lui permet, c'est de gagner du temps, en résumé.
Et surtout par rapport au bracelet électronique.
Tout à fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, Marine Le Pen, qui doit purger une peine de prison d'un an de prison ferme sous bracelet électronique, ne la purge pas. Voilà. Elle est en attente, elle ne paye pas non plus son amende, etc. La Cour de cassation a expliqué qu'elle se. Le procureur général de la Cour de cassation a expliqué qu'il se prononcerait avant l'élection présidentielle, avant avril 2027. Au plus tard, avril 2027,
sachant
qu'il
laisse que...
un panel.
Ouais. Sachant que l'élection a lieu en avril 2027.
Sachant que l'élection a lieu en avril 2027 et que par ailleurs, juste en incise, le Rassemblement national va tout faire pour repousser au maximum cette décision, puisque si la décision a lieu avant l'élection présidentielle et qu'elle est défavorable à Marine Le Pen, contrairement à ce que Marine Le Pen dit, c'est pas « nous verrons », c'est « je serai candidate avec un bracelet électronique au pied en étant condamnée à de la prison ferme ». Condamnée définitivement.
Et possiblement élue.
Et possiblement
élue. Pas que candidate, parce que si, par exemple, elle est effectivement, elle doit remettre son bracelet en avril, le premier tour, c'est quelques semaines après.
Tout à fait. Donc, c'est ce « nous verrons », au-delà de la pirouette, disons, de communication, de dire « bon, bah voilà, je n'ai pas l'esprit à ça », etc. C'est une captation de l'élection présidentielle, c'est-à-dire, c'est de dire « en fait, toute l'élection présidentielle va tourner autour de ma condamnation et de mon éventuelle condamnation définitive en fonction de ce que décidera la Cour de cassation ». C'est vraiment une captation de l'élection présidentielle.
Elle dit aussi « les Français seront juges » et on a un peu l'impression que finalement c'est ce narratif-là depuis le départ que le RN veut imposer et quoi qu'on en dise a réussi à imposer au final, à savoir que ce n'est pas à la justice de juger. Enfin, je veux dire, il y a Jean-Philippe Tanguy qui disait lui-même que Marine Le Pen était la mieux placée pour savoir si elle était innocente ou coupable. Ce qui, d'un point de vue judiciaire, est assez hallucinant comme déclaration. Mais il y a vraiment ce truc de... Ils ont réussi, effectivement, à faire primer ou même gagner ce narratif selon lequel, bah, au final, ce n'est pas la première instance, ce n'est pas la cour d'appel, ce n'est même pas la cour de cassation qui va juger, c'est les Français qui vont décider si, oui ou non, elle est coupable de détournement de fonds publics et apte à gouverner ce pays.
Mais oui, c'est cette confusion aussi qu'a introduit la décision d'appel de la Cour de Paris, en fait, qui me semble un problématique dans le sens où il ne me semble pas qu'elle demande ici à ce qu'il y ait un jugement en fait, qui soit effectué en fait, par les citoyens et citoyennes. Ce n'est pas du coup ce qu'elle demande, qu'il y ait une réforme en fait, du système judiciaire pour qu'il y ait une possibilité que les citoyens et citoyennes jugent par eux et elles-mêmes, ce qui serait aussi ce qui existe dans certains pays. Alors, peut-être pas pour des faits
de détournement
de fonds publics. Non, je ne pense pas. De corruption, non, je ne pense pas. Mais ce n'est pas sa demande. Là elle nous emmène vers un autre terrain qui est on va voir si le fait d'être élu me dédouane de, finalement, les condamnations de première et de deuxième instance. Donc c'est un peu quelque chose qui est autre, enfin c'est autre chose. On déplace un petit peu le regard, et malheureusement le regard de beaucoup d'institutions, finalement. Il n'y a pas que ses acolytes, il y a aussi l'institution judiciaire qui a accepté d'attribuer un petit peu... de la légitimité à ce discours.
– Mais c'est un grand classique du discours de l'extrême droite, ce côté la justice finalement, bon, ce qui compte, c'est l'élection, le peuple qui est souverain, et c'est lui qui compte. C'est exactement le même discours qu'on entend à chaque fois qu'on évoque les turpitudes judiciaires de maires d'extrême droite, de maires Rassemblement National, par exemple. Oui, quand on explique que David Rachline a plusieurs affaires dans lesquelles il est soupçonné de corruption, favoritisme, etc., la réponse systématique qui est faite par l'extrême droite, c'est de dire « il est réélu ». Il est réélu au premier tour. Les Français ont jugé. C'est exactement pareil. Les fréjussiens, en l'occurrence, ont jugé. Et donc, c'est un truc très classique de... opposé aux décisions de justice, la décision souveraine du peuple qui, en quelque sorte, balayerait tout. C'est-à-dire que si on est élu, eh ben, y a plus rien qui n'a d'importance.
Il y a peut-être un mot aussi que j'ai peu vu commenter aussi, parce qu'il me semble qu'elle a dit le pourvoi en appel français. J'ai pas vu beaucoup de gens qui l'ont souligné, parce que je me suis demandé en fait si elle pouvait pas derrière aussi demander qu'il y ait une cour d'appel européenne en fait qui prenne.
En fait, tout l'argument depuis le début, hein, depuis le début de l'enquête, etc. Du Rassemblement National, c'est de dire que de toute façon la justice française n'est pas apte à trancher ce qu'elle appelle des accords administratifs, contentieux administratifs. Ce sont les mots du RN, et que donc tous ces procès seraient nuls et non avenus, puisque de toute façon, ce n'est pas à la justice française de juger. Et ça fera sûrement partie des arguments qu'elle opposera en cour de cassation, on peut le supposer. Mais à ce sujet-là, il y a quand même un truc qui est très particulier, enfin qui est rigolo à noter, c'est que dans cette histoire, le Rassemblement National et Marine Le Pen ont, depuis le début, utilisé la justice, fait accélérer parfois le calendrier judiciaire, ralentit parfois le calendrier judiciaire, c'est-à-dire que pendant des années d'investigation, le Rassemblement National a multiplié ce que la Cour d'appel d'ailleurs a qualifié de manœuvre pour repousser sans cesse, refuser de collaborer avec les policiers de l'OCLIF qui venaient perquisitionner. Dans le cadre de l'enquête, ils ont multiplié les demandes, les questions prioritaires de constitutionnalité, etc., etc., pour repousser au maximum le procès. Quand le procès a eu lieu et qu'elle a été condamnée, le procès de première instance, ils ont demandé une accélération complète du calendrier judiciaire qu'ils ont obtenu, ce qui est là aussi une rupture d'égalité. C'est-à-dire que personne en France n'est jugé en appel aussi rapidement après une condamnation de première instance. C'est une fleur qui a été faite au Rassemblement National de dire « on accélère le calendrier pour vous », Gérald Darmanin l'a dit, « on accélère le calendrier pour vous, vous serez jugé le plus vite possible ». Donc là, il y a eu une accélération. De la même manière, la Cour de cassation, tant qu'elle n'était pas condamnée en appel, le Rassemblement National réclamait que la Cour de cassation se prononce le plus rapidement possible après pour que ce soit tranché avant l'élection présidentielle. Et là, depuis la condamnation en appel, l'avocat de Marine Le Pen sur les plateaux a expliqué que « Ah non, mais maintenant, en fait, il n'y a plus aucune urgence. La justice peut reprendre son cours et peut juger au rythme classique habituel. Et par ailleurs, eux multiplieront, évidemment, les recours au niveau de la Cour de cassation pour que ça dure le plus longtemps possible. »
Il y a une question qu'on ne pose même plus, mais qui se pose quand même, je pense, un petit peu. C'est qu'on a finalement l'habitude d'avoir des délinquants en col blanc qui, le soir de leur condamnation, alors là je fais référence à Nicolas Sarkozy et à Marine Le Pen dans les mois précédents, qui vont aux 20h de TF1, qui se retrouvent face à Gilles Boulot, qui tente de faire le taf comme il peut. Est-ce qu'il faut inviter aux 20h de TF1 quelqu'un qui vient d'être condamné pour détournement de fonds publics?
Ben, c'est une nouveauté en fait. On est assailli en fait d'images et on l'a vu fréquemment, donc on a un petit peu oublié que c'est nouveau en fait quand même dans l'histoire de la Cinquième que certaines frasques politiques judiciaires vont invitation dans des médias finalement en fait pour donner son explication, sa version des faits. Donc je pense que là aussi hein, c'est très personnifié. Donc il y a un choix quand même qui est fait éditorialement de pas inviter plutôt. Des juges, en fait, des magistrats qui auraient aussi été, enfin, alors qu'il y a peut-être moins liberté de s'exprimer, ou des avocats, procureurs, enfin voilà, il y a aussi quelque chose qui lui donne en tout cas un outil de communication, enfin une caisse de résonance qui est énorme, puisqu'on l'a bien vu, à chaque fois elle l'a utilisé quand même, ce 20h.
Elle n'est pas la seule.
Elle n'est pas la seule, pas du tout, mais ça dit que, là encore une fois, ça dit quelque chose de comment est faite l'information en fait. Pourquoi on veut donner la parole à un condamné en première instance pourquoi c'est intéressant d'entendre la parole tout de suite de quelqu'un
Est-ce que malgré tous les efforts que fait Gilles Boulot pour recontextualiser, la contredire et tout, est-ce que le 20h de TF1, c'est pas devenu la grande lessiveuse de condamnation juste donnée, quoi ?
Bien sûr, ça l'est. Il est impossible de faire en sorte que ce ne soit autre chose qu'un exercice de communication pour Marine Le Pen. Mais sur la question de est-ce qu'il faut inviter quelqu'un de condamné pour les tournements de fonds publics sur un 20h, ok, mais est-ce qu'on invite quelqu'un condamné pour trafic de drogue à 3 ans de prison, dont 1 an de prison ferme et 100 000 euros d'amende, la peine? Est-ce qu'on a vu des trafiquants de drogue sur le 20h de TF1 invités le soir de leur condamnation à la sortie de la cour d'appel?
Moins.
Ah bah oui, enfin, ça dit quelque chose de, voilà, de la façon dont on considère ces délits en France et la façon dont on leur attribue de l'importance. Il est évident qu'il y a une absence totale d'égalité de traitement et de considération entre certains délits par rapport à d'autres. On voit bien 2,8 millions d'euros d'argent public soustrait de leur destination pour en faire autre chose. Si ce n'était pas un politique ou une politique, évidemment, il n'y aurait pas d'invitation aux 20h, il n'y aurait pas d'invitation médiatique tout court.
La question, alors, c'est vraiment pour le coup de la fiction. Recevoir Marine Le Pen à Mediapart suite à une condamnation, ce serait inenvisageable non plus, même si elle en avait envie.
Même si elle en avait envie. Mediapart n'invite pas l'extrême droite de manière générale. Sur ses plateaux et dans ses colonnes, c'est-à-dire que c'est à la fois dans les émissions et à la fois on ne produira jamais de format question-réponse, interview question-réponse avec l'extrême droite. Et donc évidemment
jamais même en 2027
jamais
son pouvoir.
Mais bien sûr jamais okay. Et c'est une règle qu'on s'est fixée et donc évidemment même si elle en avait envie, c'est d'ailleurs l'argument qu'elle utilise très souvent hein, quand elle justifie la privation d'accréditation qui a longtemps été celle de Mediapart, maintenant on est accrédité mais pendant longtemps on ne l'était pas. C'est toujours le cas de quotidien qui est toujours interdit de meeting. La reine justifie ça en disant vous ne nous invitez pas, donc on ne vous invite pas. Le jour où vous nous inviterez, on vous invitera. Donc, et évidemment, jetant à la rivière le fait qu'être un parti politique qui respecte le droit à l'information, ce n'est pas pareil d'être un média qui a une liberté de choisir sa ligne éditoriale. Mais donc, non, évidemment, que même si Marine Le Pen suppliait à genoux en disant je veux que ce soit dans Mediapart que je m'explique, ce qui serait original, mais.
C'est inattendu, effectivement.
Ce serait quand même non.
Improbable. Dans cette même interview du 20h, il a beaucoup été question de Marine Le Pen, de sa condamnation, de son pourvoi en cassation, mais aussi d'un certain Jordan Bardella, qu'on aurait presque oublié. On regarde.
Je pense que nous offrons aux Français un binôme. Un binôme président de la République et Premier ministre, s'ils nous font confiance, et que ce binôme, il a une véritable solidité, il est très fort de ses convictions, de l'habitude que nous avons de travailler ensemble depuis des années maintenant. Nous avons les solutions, nous les exprimons d'ailleurs aux Français tout au cours de la campagne, et je pense que ce binôme est gagnant, c'est un ticket gagnant en quelque sorte. Nous nous sommes préparés. Moi, à ce rôle éminent de président de la République, dont les Français détiennent la clé, et Jordan, au rôle non moins éminent de Premier ministre, qui nécessite beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie. Et je pense que ce couple politique que nous formons peut vraiment changer les choses. Il peut représenter un véritable souffle, un nouveau souffle pour notre pays, et changer la vie quotidienne des Français. Nous, Jordan Bardella et moi-même, nous nous battons pour la France, nous nous battons pour les Français. Cette cause, clairement, nous dépasse. Et donc, nos ambitions personnelles ne rentrent absolument pas en ligne de compte.
Elle en fait des caisses, quand même.
Ah bah oui, elle en fait des caisses, mais il faut, puisque contrairement à ce qu'elle dit, depuis un an, Jordan Bardella ne se prépare pas à être éventuel Premier ministre de la France. Jordan Bardella se prépare à être candidat à l'élection présidentielle et il travaille à la fois médiatiquement, à la fois politiquement depuis un an pour cette échéance-là. Donc évidemment qu'elle en fait des caisses parce que là, il y a un petit changement de programme pour Jordan Bardella. Je ne cite pas souvent Jean-Marie Le Pen pour des raisons évidentes, mais il y a une phrase célèbre que Jordan Bardella et Marine Le Pen connaissent très bien. Il disait « Le destin des dauphins, c'est parfois de s'échouer ». Il parlait à l'époque de Bruno Gollnisch, qui était candidat pour être son successeur. Il a finalement préféré sa fille Marine Le Pen. On revient encore et toujours sur le fait qu'au Rassemblement national, c'est un parti familial, c'est un parti, Safia Dahani qualifie de patrimonial, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la famille Le Pen, la relation qu'on a à la famille Le Pen, et c'est la famille Le Pen qui décide. Le lendemain de ce 20h, Marine Le Pen a été en déplacement de campagne, premier déplacement de campagne avec Jordan Bardella, ils sont allés dans la Sarthe à la Flèche, terre de sa sœur Marie-Caroline Le Pen, qui est candidate au sénatorial pour le RN, accompagnée de Philippe Olivier, qui est à la fois le mari de sa sœur, mais aussi son conseiller spécial. Un déplacement organisé par la direction de communication de la campagne, qui a été confié à Nolwenn Olivier, qui est la nièce de Marine Le Pen, la fille de Marie-Caroline Le Pen, la fille de Philippe Olivier, donc, et l'ex-compagne de Jordan Bardella. Bon, voilà, c'est un parti qui se fait en famille.
Comment on échappe à ce côté, parce que c'est redoutable, c'est-à-dire qu'elle offre pas seulement un personnage, il y en a deux. Comment on échappe à ce petit, enfin, ce côté, la petite maison dans la prairie, ce côté dynastie familiale, ce côté qui est redoutable médiatiquement. Ça veut dire on s'intéresse à leurs querelles, à leurs différents politiques, à leurs dynamiques, à leurs envies, leurs ambitions. Comment on échappe à ça?
Eh ben, en regardant la structure, en fait, en regardant comment les prises de décision sont prises. Par exemple, en regardant qui décide, dans quel ordre, qui va venir conseiller. Donc là, il y a eu, finalement, les articles de Mediapart, ils montrent quelque chose qui est aussi très sociologique, en fait, de montrer qui est dans l'entourage, qui arrive à arriver à l'oreillette de Marine Le Pen, pendant combien de temps, qui est ensuite dégagé. Donc c'est des histoires, en effet, de connexion qui sont assez durable, parce que là, on le voit, hein, enfin, l'entourage de Marine Le Pen, il perdure depuis très longtemps. Il y a aussi ces histoires d'inimitié, parce qu'assez vite, à l'extrême droite, on peut être très amis et assez vite tomber en disgrâce, comme dans beaucoup de partis politiques, mais je pense avec quand même une certaine régularité dans l'extrême droite, hein, puisqu'on le voit, hein, les numéros 2, en effet, il y a eu un intérêt médiatique à un moment. Mmh. Mais ce que, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire-ci, qui est que comment on fait quand on a toute l'histoire aussi, toute la manière de raconter les élections par les journalistes qui est personnalisée, et qu'on ne sait pas qui va y aller. Donc là, on l'a vu, hein, c'est la question auquel ont dû avoir à répondre les communicants du RN, de dire on doit en fait présidentialiser deux personnes, ce qui n'est pas commun, parce qu'on ne fait pas ça dans les médias. On est obligé, d'ailleurs les médias, dès que Jordan Bardella a été potentiel candidat, sont rentrés dans le gouffre, d'aller regarder comment il était, de commenter son physique, de commenter ses couples, finalement...
– Il leur a aussi offert ça sur un petit plateau.
– Tout à fait, mais c'était... Et donc, je pense que garder une analyse un peu systémique de ce que c'est que ce parti-ci, alors même qu'on ne sait pas et que les journalistes aimeraient savoir qui va partir en campagne dans pas longtemps, c'est de montrer aussi ce que c'est que le charisme de position. Donc, on aurait pu mettre n'importe qui. Le charisme de position. Donc là, je sors mes outils de sciences politiques pour expliquer que finalement, le charisme, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas nécessairement... Donc, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que Jordan Bardella, il a les épaules? Est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il est suffisamment beau gosse? Bon, voilà. Ça a tourné autour de quelque chose de finalement très personnifiant et très individuel. Et puis, on a oublié derrière ce qu'il soutenait, en fait. Et ce qu'il soutient, c'est un parti. Si Jordan Bardella était arrivé avec un autre parti, on ne parlerait pas de lui dans la presse. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il est charismatique, c'est qu'il est mis à la tête d'une structure, d'une organisation politique qui a déjà un nom, qui a déjà des militants, qui a déjà une manière de faire, de procéder, et on aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Hein. D'ailleurs, ça a été commenté de manière un peu discréditante pour Jordan Bardella, de dire finalement c'est un pantin. Mais en fait, c'est vrai, hein. Finalement, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Et ça aurait pu, il aurait pu courir à peu près la même course parce que voilà ce qu'offre un parti politique encore aujourd'hui. On fait campagne avec des partis en fait qui investissent et qui viennent agrémenter, viennent donner aussi une image particulière, embarquent une histoire, embarquent une rhétorique dans la course, enfin dans les campagnes politiques quoi.
Et sur la question qui était de comment on fait pour contrer cette espèce de récit médiatique de...
Pas se laisser avaler par ce truc-là.
Par ce truc de...
Qui journalistiquement est redoutable.
Du couple, et du,
tous les journalistes politiques fondent complètement là-dedans.
Quoi. La relation quasi-filiale, le machin, etc. Bah, en fait, c'est une responsabilité énorme qui incombe à nous, aux médias, de continuer à marteler, rappeler la réalité de ce parti, la réalité de ses propositions, le fait que c'est un parti qui a un programme qui est fondamentalement xénophobe, qui est basé sur les différences entre les gens, qui est profondément dangereux pour la démocratie, qui est profondément dangereux pour notre résistance au changement climatique, et de rappeler ce qu'il propose, ce qu'il fait quand il est au pouvoir, que ce soit ailleurs en Europe avec ses alliés, que ce soit dans les municipalités, que ce soit dans les collectivités locales qu'il dirige, etc. Et voilà, ici on est sur un plateau qui est bien placé pour le savoir. C'est une responsabilité énorme qui incombe aux journalistes et aux médias, et on peut pas dire que ce soit toujours extrêmement bien fait.
J'aimerais qu'on termine avec un dernier extrait de cette interview du 20h. C'est parce qu'on a beaucoup parlé du parti, des candidats, mais moins des électeurs et de l'impact que cette décision, que ces décisions, parce qu'il y a la décision de la justice puis celle de Marine Le Pen, aura éventuellement sur leur vote. On écoute cette question.
Question personnelle, vous ne craignez pas dans les meetings que vous allez tenir dans les mois, les semaines à venir, que les Français, même vos sympathisants, vous renvoient au visage ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire les attendus des jugements qui sont très... Vous dites, vous êtes innocent, mais les attendus sont très sévères. Factuellement, les choses sont étayées. Le fait que l'argent des contribuables ait été utilisé à des fins qui n'étaient pas les bonnes fins. Monsieur, vous ne craignez pas que des gens se manifestent
Boulot,
de cette manière-là?
C'est les Français qui auront le dernier mot.
Donc, vous voyez, vous jugerons à cette aune-là également.
C'est un peuple majeur. C'est lui qui aura le dernier mot.
Alors, même parmi vos sympathisants, c'est ça qui est intéressant. Yumni Kezou, j'imagine que dans le cadre de votre travail, vous avez rencontré des électeurs du RN, même si vous êtes journaliste à Mediapart, je suis sûr qu'ils vous parlent. Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce propos?
Moi, j'avais à peu près la même tête que Marine Le Pen quand j'ai entendu la question de Gilles Boulot, parce qu'elle est en fait assez naïve. C'est-à-dire, imaginer que Marine Le Pen va se faire huer dans ses propres meetings par ses électeurs parce qu'elle a été condamnée, c'est d'avoir jamais parlé à un électeur RN de sa vie par ailleurs. Mais moi, quand je parle à des électeurs RN dans des meetings, dans des fêtes champêtres comme le week-end dernier à Liévin, etc., il y a deux choses qui frappent. C'est d'une part l'efficacité absolue de cette idée du ticket dont on a parlé, etc. C'est-à-dire que c'est une entité, c'est Jordan et Marine. C'est Jordan et Marine dans le même souffle, c'est-à-dire que c'est vraiment une entité. Et c'est l'impossibilité, ça n'est même pas une question. Quand on parle... Les affaires, etc. On dit, y compris des gens qui... Par exemple, pour prendre le cas de Liévin, où j'étais ce week-end, on est dans une ville du bassin minier qui a été ravagée en partie par les magouilles financières du Parti Socialiste de l'époque, qui a détruit à la fois la confiance que les gens ont envers les politiques et qui a détruit des municipalités comme Hénin-Beaumont, qu'elle a rendu exsangue financièrement, etc. Donc c'est des gens qui ont voté pour le parti en partie parce qu'il y avait ce discours tête haute, main propre, tous pourris sauf nous, on va vous débarrasser des magouilleurs. Ces mêmes gens qui ont voté en partie pour ça, pas uniquement évidemment, mais en partie pour ça, on leur dit condamné quand même, 2,8 millions d'euros, etc. Moi, je n'ai jamais rencontré un électeur RN qui m'a dit « Ah oui, quand même, elle abuse » ou « Ah oui, si c'est vrai, c'est grave ». Jamais. Il y en a peut-être, hein, mais moi, de tous ceux à qui j'ai parlé, je n'ai jamais eu quelqu'un à un meeting qui m'a dit « Ah quand même, ça se fait pas, il faudrait... ça n'est jamais arrivé. »
C'est quelque chose qui vous surprend, ça, que l'électeur RN ne soit pas du tout atteint par les questions, finalement, de probité de sa future candidate?
Non, pas du tout, parce que j'ai aussi fréquenté, moi je suis ethnographe, donc j'ai aussi passé beaucoup de temps avec des élus, enfin plutôt avec les équipes dirigeantes, mais aussi par moments j'ai voulu voir ce qu'ils faisaient devant leurs électeurs, donc j'ai aussi assisté à des universités d'été par exemple, des meetings, donc j'ai vu comment, et à un moment où l'affaire commençait, des assistants fictifs, donc j'ai bien vu comment on pouvait réagir. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir en tête que tout le monde...
Comment ils réagissaient justement?
Déjà,
ce que raconte Yumni, à savoir ils s'en foutaient?
Oui. Manifestement.
Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais je me permets, parce que ça voulait dire à peu près ça. Mais...
Oui, tout à fait, parce qu'il faut voir comment on le raconte aussi. Donc si on le raconte en discréditant la justice, évidemment, ça paraît une injustice. Donc comment on victimise la stack du système, qui, je pense, servait bien à Marine Le Pen à un moment où autrement elle aurait eu un peu plus de mal à ne pas se faire apparaître comme une élite. Hein. Donc en fait, les attaques judiciaires, elles lui permettaient aussi à continuer à être anti-système finalement devant un électorat. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout le temps présumer que tout le monde suit à la lettre autant que nous ce qui se passe en fait.
On peut même assurer du contraire
que finalement, et puis pas assurer aussi que... y compris si on avait des personnes qui suivaient bien l'actualité, qui étaient électrices ou électeurs RN, considérer qu'ils peuvent aussi avoir une appropriation de ce qui est dit particulière, en fait, de se dire est-ce que c'est encore les élites culturelles qui décident, c'est encore les élites judiciaires qui décident. On peut complètement en faire un mythe qui est assez tenace, hein, finalement, au Rassemblement national. Et ce que je voulais quand même aussi redire, on a oublié, enfin, on ne l'a pas rementionné aujourd'hui, Jordan Bardella a aussi des affaires, enfin, hein, qui sont en cours et qui donc et il
qui concerne effectivement pas, aussi son travail au Parlement européen.
Tout à fait.
Mais ouais. Juste pour terminer dans la continuité de ce qu'on disait sur les électeurs, il faut aussi rappeler, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on écrit, c'est ce que des travaux de sociologie disent, ceux de Félicien Faury dans le Sud, ceux de Pierre Vadelot dans le bassin minier, disent et redisent. Les électeurs du Rassemblement national, ils ont des très bonnes raisons de voter Rassemblement national, c'est le programme du Rassemblement national, c'est le programme raciste et xénophobe du Rassemblement national. C'est pour cela que ces gens votent pour le RN. Et donc, affaire ou pas affaire, condamnation ou pas condamnation, le programme du RN, il n'a pas changé. Les propositions du RN sur l'immigration, elles sont toujours les mêmes. Et donc, l'électeur, pour lequel son vote, la motivation de son vote est celle-ci, bah, si sa motivation première est celle-ci, il n'a pas de raison non plus de se détourner, de s'indigner, de dire oh bah non, mon vote va aller pour quelqu'un d'autre, quand même. C'est aussi, enfin, c'est logique. Il faut croire à ce qu'on écrit et croire aux travaux de gens qui passent des années à questionner et à discuter avec des électeurs du RN pour comprendre pourquoi ils font ce vote-là.
Il y a un beau texte, si on pouvait terminer, de Sciences Sociales qui s'appelle Les Grecs ont-ils cru en leur mythe ? Donc c'est un beau texte de Paul Veyne sur qu'est-ce que c'est qu'une croyance, comment on peut croire en des manifestes contre-vérités, comment en fait se structure aussi collectivement en fait cette vérité, parce que ça reste aussi quelque chose d'assez sociologique en fait, de comment on s'accorde sur ce qui est vrai. Et qui dit quelque chose de comment l'autorité est créée et comment l'autorité circule. Et je pense que c'est quelque chose à avoir en tête, en fait. Est-ce que la vérité vint tout le temps ? C'est quelque chose d'assez naïf, finalement, à penser. Pas tout le temps. Et de voir comment elle se construit, en fait, concrètement.
Eh bien, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.